professeur Simonin, qui donc a dirigé la médecine légale à Strasbourg jusqu'en 1962, donc avant M. Choron. Et lui, dans sa définition de la médecine légale, il disait que la médecine légale judiciaire revient à la mission de jeter ce pont, de jeter un pont entre la pensée juridique, donc le droit, et la pensée biologique et médicale. C'est important, toujours, cette nécessité que nous avons de répondre à les questions médicales aux magistrats. Un peu plus proche de nous, le professeur Dubout, qui exerce toujours à Clermont-Ferrand, donnait une autre définition, qui est une définition un peu plus moderne. Cette définition reste toujours valable. C'est la définition que c'est un médecin spécialisé dans les violences. En effet, nous intervenons pour le constat des violences, quelles qu'elles soient, qu'elles causent un décès ou que les personnes, fort heureusement, sont encore vivantes, pour donner ces renseignements par rapport à la justice. Voilà un petit peu dans quel cadre nous intervenons. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas intervenir si nous n'avons pas une demande officielle de la justice. Procureur, magistrat du siège, c'est tout à fait important. Alors voilà ce que vous voyez actuellement. Sur les écrans, vous avez ces nombreuses séries. Alors les experts, vous avez NSAGES qui, j'allais dire, vous montre un petit peu en accéléré l'ensemble des techniques qu'on peut mettre en œuvre. Ce sont des émissions télévisées. Donc vous avez le temps qui est raccourci. Bien sûr, les techniques qui sont décrites sont des techniques que nous utilisons. Donc ça c'est vrai. Mais nous n'avons pas de pouvoir d'enquête. Donc, quand vous voyez les enquêteurs qui font et les examens biologiques et d'autres examens complémentaires, nous ne pourrons pas faire l'enquête telle qu'ils le réalisent. En tout état de cause, certains nous demandent également s'ils auront plus de recrutement suite à ces séries télévisées. Nous avons toujours eu des médecins intéressés pour venir nous rejoindre, séries télé ou pas. Peut-être un problème de poste pour les fidéliser, mais c'est quelque chose que nous connaissons. Actuellement, notre actualité est toujours différente. Vous voyez comment nous sommes. Quand nous sommes sur tel écrit, il faut que nous soyons complètement casqués, bottés, pour éviter de contaminer par nos fuites, par notre ADN, la scène écrite. Donc quand vous voyez ça, maintenant, nous avons des règles d'intervention tout à fait précises, tout à fait strictes, pour que nous puissions intervenir et tirer le maximum de la scène écrite. Nous allons voir maintenant les champs d'application, et je voulais vous présenter sur la prochaine diapositive une image qui nous présente toutes nos interventions. Donc le cœur du métier, ça reste toujours la thanatologie. Cet aspect qui concerne les personnes décédées, donc souvent le crime, toujours de mort violente, inexpliquée. Nous avons deux étapes. Tout d'abord, ce que nous appelons la levée de corps, c'est l'examen externe du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissection. Nous examinons la personne et nous décidons s'il y a lieu de poursuivre les investigations ou pas. Toujours pour rechercher des signes de crime ou de délit. Ensuite, si nous pensons qu'il y a de tels signes, nous demandons l'autorisation de faire une autopsie avec la dissection. Mis à part ce cœur de métier, vous avez toutes les autres disciplines qui sont autour de notre métier. Tout d'abord, les examens du vivant, la médecine légale clinique, donc agression sexuelle, maltraitance à enfants, maltraitance à personnes âgées, maltraitance à des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Nous avons les coups et blessures avec les constatations de ces lésions-là qui ont lieu habituellement, donc médecine légale. Puis une partie importante, c'est les examens complémentaires biologiques. Tous les examens que vous nous faire à partir des fluides, la toxicologie, rechercher des traces de toxiques qui seraient venues intoxiquer. Vous avez des exemples classiques tels l'arsenic, mais nous avons d'autres toxiques actuellement. Les examens microscopiques des téguments, ce que nous appelons anatomopathologique ou histopathologie, donc c'est une analyse au microscope des téguments pour rechercher des poudres, par exemple, au niveau cutané dans les coups de feu. L'odontologie, donc les examens dentaires pour l'identification des personnes, on compare ce que nous avons pu voir sur le corps avec les schémas dentaires qui sont chez les chirurgiens dentistes présents. Ensuite, toujours au niveau biologique, les recherches génétiques avec les profils génétiques. J'y reviendrai longuement puisque c'est une des révolutions de ces 20 dernières années. Elle date de 1987 et Strasbourg a été moteur dans cette recherche-là. L'entomologie, c'est l'examen des bouches. Vous savez que nous pouvons déterminer un délai post-mortem grâce à l'étude des bouches qui viennent coloniser le corps. Donc ça ne se fait pas à Strasbourg, ça se fait à Lille et à Paris, mais c'est une des disciplines. Enfin, les analyses balistiques que nous faisons par les lésions que nous voyons sur le corps pour déterminer le calibre du poids. diffusion et naturellement les trajectoires. Donc là, nous avons la balistique médico-légale. Il ne faut pas les oublier. Quand je vous brosse ce portrait de notre discipline, les autres secteurs, et à savoir les expertises en matière de réparation du dommage corporel, c'est-à-dire quand quelqu'un a été victime de lésions, action de la voie publique et autres, nous déterminons quelles sont les lésions qui doivent être indemnisées au niveau du procès. Donc nous voyons des victimes, et alors là, c'est des victimes que nous voyons un an, deux ans, trois ans après les faits, et également les dossiers en matière de responsabilité médicale. Et je sais que vous aviez le docteur Sok qui est déjà intervenu il y a quelques années devant vous pour, j'allais dire, envisager cette responsabilité médicale aussi. Ce sont des dossiers que nous avons à nous prononcer, tout un petit peu notre cursus universitaire et bien sûr une autre discipline que je ne pratique pas, c'est la psychiatrie médico-légale qui est un pan entier de cette activité-là et qui est exercée donc pour les psychiatres quant au passage à bac, quant à l'analyse de la personnalité, soit des victimes, soit des auteurs. Voilà un petit peu. Brosser sur une seule diapositive l'ensemble de ces missions. Et sur Strasbourg, nous avons la chance de pouvoir proposer à nos collaborateurs de changer d'activité, soit par jour, soit par semaine, afin que nous ne soyons pas toujours dans le même champ d'action, ce qui serait un petit peu difficile à supporter à la longue. La suivante. Alors, on va voir les conditions d'intervention. Quand est-ce que nous sommes appelés à intervenir ? Nous aurons quelques éléments, je vous montrerai des exemples d'autopsie médico-légale pour que vous voyez bien notre conduite à tenir. Ensuite, des analyses anthropologiques tout à fait importantes quant à l'analyse de restes osseux, l'imagerie post-mortem. En clair, c'est le scanner qui est actuellement est l'IRM, qui nous apporte beaucoup d'indications concernant ces études. Ensuite, un élément modèle FII. Alors, c'est un modèle qui a été développé au niveau de l'Université de Strasbourg, qui nous permet de reconstituer certains chocs, la force de certains chocs, et déterminer si les déclarations des personnes sont compatibles avec ce que nous voyons comme lésion. Le bébé secoué, par exemple, ceci permet de nous donner la violence avec laquelle il a fallu secouer l'enfant pour expliquer le traumatisme cérébral et le traumatisme du cerveau. Ensuite, je vous parlerai de noyades et d'algues, des siliceuses qui se trouvent dans le ruisseau et qui pénètrent dans le poumon, les diatomées. Donc là encore, on arrive dans d'autres domaines, d'autres disciplines que nous pouvons adapter à la médecine légale. Donc le point important est bien cet aspect multidisciplinaire. Nous nous servons des avancées des différents secteurs scientifiques pour les adapter à la médecine légale. La génétique, l'imagerie, tout ce qui est aussi flore hybride, donc toutes les recherches que font les collègues dans leur domaine d'intérêt peuvent être appliquées à la médecine légale pour nous permettre de progresser en matière donc, d'enquête sur le corps. Ça, c'est très important et c'est ce qui fait une discipline qui est vraiment très ouverte. Au niveau de notre intervention sur le corps, qu'est-ce qu'on nous demande quand nous faisons une autopsie ou quand nous intervenons à la demande d'un magistrat? Tout d'abord, d'identifier le corps s'il n'avait pas, si les enquêteurs n'ont pas pu l'identifier. Ensuite, savoir quand est-ce que les faits se sont produits, le délai post-mortem, depuis combien de temps le corps est à cette place où nous l'avons trouvé, puisqu'il peut être transporté à... Comment ? Donc la cause du décès. Quel a été le modus operandi ? S'agit-il d'un homicide ? S'agit-il d'un suicide, d'un accident ou est-ce un décès naturel ? N'oublions pas que des décès naturels peuvent être présentés alors qu'ils camouflent un homicide. Ou alors vous avez un suicide par pendaison alors que c'est finalement quelqu'un qu'on a oxy avant et qu'on a suspendu à une carotte pour faire croire à la pendaison. Alors ce sont des cas certes rares mais qui arrivent. Donc nous devons avoir l'esprit vraiment très affûté pour essayer de déterminer ces mises en scène qui peuvent exister. Ensuite, quand nous avons affaire à un homicide, nous devons mettre tout en œuvre pour essayer de caractériser l'auteur, savoir comment il a agi, et éventuellement, est-ce qu'il a laissé des traces biologiques, est-ce qu'il a laissé des cellules sur place, avec les empreintes génétiques, peuvent éventuellement donner ce profil d'identification. Dans ces problèmes, pour la datation, quand nous avons une lésion, est-ce qu'elle s'est produite avant le décès ou après le décès? Chose importante pour pouvoir savoir est-ce que cette lésion a participé aux causes de décès. L'ancienneté de ces lésions. Est-ce qu'on pense que c'est une lésion qui a eu lieu plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines avant? En effet, vous pouvez avoir des personnes qui sont victimes d'une rixe, qui ne décèdent pas suite à la rixe, décède un ou deux jours après, notamment dans tout ce qui est hématome sous-dural et hématome extradural qui peuvent se produire. Le mécanisme légionnel, avec, et je vous le montrerai par des exemples, quel est l'objet, quel est l'instrument qui a été utilisé. Objet contondant, instrument piquant ou tranchant, petit couteau, batte de baseball. Est-ce qu'il s'agit au contraire d'un coup porté à l'aide d'une arme à feu? Ensuite, les forces. Quelle est la force qu'il a fallu prendre pour que le coup soit porté? Notamment dans des coups de couteau, quelle est la force pour traverser les côtes pour aller, par exemple, jusqu'au niveau vertébral? Enfin, vous avez là une force que nous devons déterminer. Je voulais également pour les bébés secoués, quelle est la force qui a dû être appliquée? Le sens de production. En effet, est-ce que le coup était de droite à gauche, de gauche à droite, d'en haut en bas ou d'en bas en haut? Alors c'est tout à fait important, pourquoi? Qu'est-ce que nous allons avoir quand un suspect va être appréhendé, il va avoir des déclarations, et le magistrat va nous demander si ces déclarations sont compatibles avec ce que nous avons vu ou pas. Donc nous devons analyser finement le modus operandi pour dire, ah oui, ces déclarations-là sont compatibles, tel autre ne l'est pas. La chronologie des lésions, si nous pouvons le faire, et je vous montrerai aussi un cas, c'est-à-dire quelles sont les lésions qui ont été les premières appliquées au corps, et quelles sont les lésions qui ont été finales, voire qui ont entraîné le décès. Dans la façon de produire cela, dans la façon de faire, il est tout à fait important pour pouvoir déterminer si l'auteur a une volonté de tuer ou pas. Donc toutes ces questions trouvent une justification juridique que le magistrat ensuite va exploiter. Ensuite, quand nous avons les lésions, la force, on va déterminer effectivement si le décès a été rapide, s'il y a eu une agonie, s'il y a eu une incapacité du sujet, s'il y a un coma. Alors, ça peut vous paraître simple, mais nous avons vu des personnes qui, avec une plaie par arme à feu, donc un coup de feu au niveau du cœur, ont encore pu franchir 60-80 mètres, ce qui est quand même étonnant. Donc pendant cette course finale, il faut savoir c'est effectivement le sujet qui a pu faire ou ce qui a été traîné sur cette distance. Et donc pour nous, il est important de pouvoir imaginer ce que la personne a encore pu faire. Notamment également les personnes qui se défendent, qui arrivent encore à infliger une plaie à l'agresseur alors qu'elles sont mortellement touchées. Là également, il faut pouvoir l'expliquer en fonction du décès rapide ou au contraire de l'agonie prolongée. Donc c'est l'agonie prolongée, il faut savoir si l'individu, enfin, si les personnes autour auraient pu encore appeler les secours et sauver la personne. Donc là, mon assistance à la personne en danger peut jouer. Donc il s'agit là d'éléments excessivement importants. Dans les circonstances additionnelles, on nous posera toujours la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'un accident ou pas. Et s'il ne s'agit pas d'accident, s'agit-il d'un crime ou d'un suicide? J'ai eu le cas dernièrement d'un jeune atteint d'un coup de couteau sous l'aisselle de la gauche et il était habillé d'une doudoune, enfin comme on est habillé actuellement. Il a été touché donc par ce coup de couteau par un tiers, et les policiers m'ont demandé est-ce que ça peut être accidentel. Effectivement, on peut penser qu'il aurait dérapé quelque part, sous le cas de Bergat, et serait ensuite blessé par le couteau que malheureusement tenait un ami devant lui. Vous voyez un petit peu les sortes qu'on peut le tenir, mais sous l'aisselle, avec un couteau, je peux dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'accidentel, il s'agissait de quelque chose de volontaire. Ça paraît évident, mais encore faut-il le noter noir sur blanc, pour que l'ordre de la défense ici puisse être utilisé. Dans les causes de décès, de nouveau, cet examen de lésion nous permet de comprendre le mécanisme lésionnel, et c'est grâce à l'autopsie ensuite qu'on va pouvoir mesurer, prélever, faire les examens au scanner, la dissection pour pouvoir garder les preuves. Là également, l'affaire va passer aux assises un an, deux ans, trois ans après, il faut que nous ayons des éléments de preuve pour bien attester de ce que nous avons conservé, de ce que nous avons écrit dans notre rapport et de ce que nous avons avancé. Voilà un cas. Ce sont des pièces osseuses, alors vous n'aurez pas trop, il y aura quand même quelques clichés qui montrent des restes humains, des éléments humains. Je ne peux pas forcément faire que de la virtuosité et vous montrer des choses tout à fait indépendamment du corps. Donc nous avons ces pièces osseuses, là, ces pièces ont été nettoyées, c'est des pièces osseuses qu'ils ont retrouvées dans l'île, juste ici. Et à partir de ces restes humains, nous devions dire de qui s'agit-il, comment il est décédé, de reconstruire l'histoire. Alors, ceci peut paraître difficile. Actuellement, nous pouvons, à partir de ces pièces osseuses, redonner presque toute l'histoire de cette malheureuse victime. Tout d'abord, vous avez un bassin. Un bassin qui est ici. Et sur ce bassin, vous voyez cette lésion osseuse. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une lésion provoquée par un instrument ici, contendant, piquant, et ainsi de suite. Non, c'est l'effet des animaux qui sont autour des berges qui viennent grignoter un petit peu cet os. Donc ça n'a rien à voir avec l'effet. Nous avons ici un fémur qui nous permet déjà d'avoir des indications. Grâce à ce fémur, nous avons pu approcher la taille du sujet. Grâce à ce bassin et à cet angle, nous avons pu dire qu'il s'agissait d'un homme. Un, nous avons un homme. Deuxièmement, nous avons à peu près sa taille. Il faut que nous puissions maintenant déterminer un petit peu quelles sont les causes de décès, mais également depuis combien de temps ce sujet était resté au niveau de l'eau, puisqu'il a été retrouvé par les promeneurs près des roseaux. Alors, vous avez ces tissus qui se sont transformés, on appelle ça une saponification, c'est une transformation des graisses un peu en savon, et nous savons que le délai est à peu près de un an et demi pour réaliser ceci. Et dans l'eau, ça se détruit très rapidement, donc nous avions mis un délai post-mortem de 18 mois. Un an, 18 mois, dans l'eau, bien sûr, nous avions donc l'homme et sa stature. Alors, pour aller plus loin, nous avons scié le fémur pour extraire d'une part la moelle fémorale, puisque dans la moelle fémorale, je vais rechercher des algues, qui s'appellent les diatomées, et ces algues sont présentes dans tous les cours d'eau. Et quand la personne se noie, vous allez voir, on inhale ces algues, elles vont dans le poumon, puis dans le reste de la circulation, il y a un trou dans le tissu osseux, qui est un tissu sanctuaire. Donc si je trouve ces algues dans les tissus osseux, même dans cet état de conservation, parce qu'il y a même un tissu, je pourrais dire qu'il s'est noyé. Et d'autre part, grâce à la poudre d'os, je peux faire une analyse toxicologique pour savoir effectivement s'il prenait des médicaments, ce qui s'est éventuellement passé. Grâce à cette poudre d'os, moelle diatomée, poudre d'os, analyse toxicologique, cette poudre d'os va me permettre d'établir le profil génétique, la carte d'identité génétique de cet individu, et de la comparer avec un fichier national automatisé des empreintes génétiques que nous avons en France pour voir si la personne a pu signaler les fichiers. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ceci. Nous allons prendre la photo suivante qui vous montre ces algues. Ça, c'est une diatomée. Et nous allons retrouver deux diatomées dans la moelle osseuse. Et ces deux diatomées, donc elles ont un manteau siliceux, voire avec des ornements ici. Et ces deux diatomées, ce sont des algues qui se trouvent dans les cours d'eau, dans l'île. Je peux donc maintenant, grâce à ces deux diatomées, indiquer que cette personne a inhalé de l'eau de l'île. Ça, c'est sûr. Donc, nous sommes... Alors, je n'ai pas le poumon, donc je ne peux pas affirmer une noyade, mais retrouvant ça au niveau de l'os, je suis presque certain qu'il s'agit d'une noyade. Et qu'il a bien été... Il s'est bien noyé à l'endroit où il a été retrouvé, puisque les diatomées correspondent. La suivante. L'analyse toxicologique est faite avec du matériel qui permet de détecter vraiment des quantités infinitésimales, donc une poudre d'os, on le passe dans ces spectromètres, donc je veux dire que c'est quelque chose d'important, et nous allons sur la prochaine diapositive voir que la personne avait consommé du diazépam et une autre diazépam, ce sont des benzodiazépines, du type valium. Donc là-dessus, on est certain, je ne peux pas donner les quantités, parce que c'est sur l'eau. Mais je suis certain que la personne était en imprégnation au niveau du diazépam et du diazépam, puisqu'on en a retrouvé dans la moelle osseuse, on en a retrouvé aussi sur l'os cortical. Donc attention, nous avons quelqu'un, on a la taille, on sait qu'il s'est noyé, mais qu'il était aussi sous l'influence de benzodiazépine. Doucement, les enquêteurs me disaient, ah oui, mais il y a une disparition d'un toxicomane, qui correspondait à peu près au niveau du sexe, au niveau de la taille. Donc je dis, voilà, c'est quelqu'un qui est sous benzodiazépine, il peut s'agir de quelqu'un qui est peut-être en sevrage, en période de sevrage, et qui pourrait correspondre. Mais je n'ai pas d'indication de l'identité. Ce seront les empreintes génétiques qui vont donner la solution. Donc, on a prélevé de l'os cortical avec un protocole d'analyse que nous avons développé pour du matériel très dégradé, et nous avons obtenu un profil complet. Là, je vous montre le profil XY, donc il s'agit bien d'un homme, ça c'est confirmé, nous l'avions anthropologiquement, c'est confirmé. Et nous avons ici, vous voyez ces pics, enfin c'est une empreinte génétique que nous pouvons exprimer par rapport aux régions de notre patrimoine génétique que nous avons analysé. Et donc ce profil complet est envoyé à Lyon, où il y a le fichier national des empreintes génétiques, il est donc administré par la police, Et tout ceci à la demande du magistrat, et nous avons eu un match, c'est-à-dire que nous avons identifié cette personne, a été signalée. C'était effectivement un toxicomane qui avait déjà été arrêté, qui avait été emprisonné, son profil était connu, et il a disparu. Donc je veux dire, je ne peux pas vous dire maintenant exactement ce qui s'est passé, en tout cas, il était sous influence de benzodiazépine, il s'est mis dans la ville, et il s'agit bien de cette personne-là. Donc elle est identifiée. La suivante, voilà. Donc nous avions dit avant, grâce à l'étude anthropologique, son âge était entre 19 et 34 ans, donc quand vous avez vu avant les pièces osseuses, il avait 31 ans, donc on n'était pas trop loin. Nous avions une taille qui avait été estimée à 1,66 m, donc là nous étions également tout à fait corrects. Le profil génétique nous a permis de l'identifier, il était dépressif, toxicomane, les résultats toxicologiques nous indiquaient un petit peu ces éléments-là, et l'intervalle post-mortem, nous avons dit de 6 mois à 3 ans, il a été porté disparu en juin 2010 et nous l'avons retrouvé, c'était fin 2011. Donc voilà un petit peu par rapport à un cas concret, ce que nous pouvons amener comme précision par rapport aux enquêteurs. Avec les premiers éléments de sexe, de taille et de délai, nous n'aurions pas pu approcher les différentes personnes interrogées sur le fichier. Donc là, on essaye d'être le plus précis possible pour qu'ensuite, au niveau du fichier, nous puissions avoir un match. Voilà un exemple pratique qui peut se dérouler dans notre vie.